Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité. Sa richesse a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Identité culturelle, c'est tous les samedis à 8h30, dimanche à 10h05 et mardi à 13h30.
Fidèles auditeurs, ravis de vous retrouver dans ce magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Scolariser sans apprendre n'est pas simplement une occasion manquée, mais une grande injustice, selon le rapport synthèse de la Banque mondiale sur le développement humain de 2018. L'enjeu est de garantir une éducation de qualité. La gratuité de l'enseignement a permis aujourd'hui à plusieurs enfants congolais de fréquenter l'école. Cependant, la qualité de l'enseignement pose toujours problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer une éducation véritablement qualitative afin de développer, d'assurer le développement de la République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Jean Bedel Iyoka Otangela Nkumu. Il est doctorant en sciences politiques et auteur de l'ouvrage intitulé « Plaidoyer pour la mise en œuvre des STEAM éducation en République démocratique du Congo ». Jean Bedel, encore une fois, bonjour.
Bonjour, bonjour Monsieur Nkashama.
Bien, nous parlons aujourd'hui de la qualité de l'éducation. Comment assurer une éducation de qualité aux enfants congolais? Alors, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les préalables pour qu'on en arrive là? Parce qu'aujourd'hui, la question de la qualité se pose toujours avec acuité.
Dans le on va dire la progression stratégique de la problématique de l'enseignement, telle que d'ailleurs pensée par la communauté internationale, UNICEF et tous les objectifs de développement. La première séquence avait été la problématique de l'accès des enfants, large accès des enfants à l'école. On a à un certain moment participé au programme intermédiaire qui consistait spécifiquement à qui ciblait spécifiquement les jeunes filles. Qui sont une catégorie particulière des enfants, des jeunes. Mmh. Et cet objectif ayant été largement atteint, particulièrement pour la République démocratique du Congo, qui vient de remonter d'un cran à la faveur de la mesure présidentielle mettant en exécution la disposition constitutionnelle de la gratuité de l'enseignement primaire, l'enjeu maintenant tient à la qualité de l'éducation. Parce que vous aviez si bien lu cette conclusion de la Banque mondiale, mm-hmm, qui indique que la seule formation, la seule accès des enfants à l'école ne suffit pas. Il faut une qualité pour l'intérêt de l'enfant comme personne, qui doit se rendre utile pour lui-même et pour la société, et un enjeu également pour l'État, qui doit tirer le bénéfice de cet enfant à être formé. Alors, comment faire?
D'abord, quel état des lieux vous faites aujourd'hui de la qualité de l'enseignement dans notre pays?
La qualité de l'enseignement est assez faible.
Et au rabais, comme on le dit chaque année.
J'aimerais employer en rester là avec le terme faible plutôt qu'au rabais. Mmh. Il y a des indicateurs. Les indicateurs, le plus important, c'est d'analyser le rapport de la Banque mondiale justement de 2018 qui analyse la forte progression, la forte stabilité économique que nous avions atteint entre 2010 et 2015-2016. Ce rapport de la Banque mondiale indique clairement que cette croissance économique n'aurait pas pu ou n'a pas pu être soutenable simplement parce que, pas simplement, mais entre autres facteurs fondamentaux, mmh, était notamment la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement, qui n'était pas assez soutenable, parce qu'il y a des indicateurs, un indicateur important qu'on appelle l'épargne nette ajustée. L'épargne nette ajustée est une proportion entre le capital, l'ensemble des investissements réalisés dans le pays, le taux de consommation des ressources naturelles et la capacité pour un État de pouvoir endiguer cette réduction substantielle des ressources naturelles par une main d'œuvre qualifiée. Mmh. Et donc, lorsqu'on a fait cette proportion de l'ENA, on l'a analysée, on s'est rendu compte que elle ne faisait que baisser, et de cette façon-là, le pays ne pouvait pas aspirer à une stabilité économique, nonobstant les progressions, on va dire statistiques, que nous avons constaté. Mmh. C'est bien un indicateur et qui justifie en effet l'exigence, la nécessité, l'extrême obligation pour le pays de se concentrer sur la problématique de la qualité de l'enseignement, sinon nous ferons du surplace, ça c'est sûr.
Voilà, donc la qualité de l'enseignement demeure un problème dans notre pays. Alors, quelles sont les solutions? Vous avez d'ailleurs rédigé un ouvrage là-dessus, plaidoyer pour la mise en œuvre de STEAM éducation à RDC. Mm-hmm. C'était après votre voyage aux États-Unis dans le cadre du programme IVLP, donc un programme organisé par
le département d'État.
Le département d'État américain. Vous avez eu à visiter certainement les systèmes, comment les écoles américaines, l'éducation fonctionne là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de ces systèmes que vous proposez, les STEAM éducation?
Le STEAM éducation est un programme d'éducation qui n'est pas spécifique aux États-Unis, mais qui est mis en œuvre de façon très particulière par les États-Unis. Le STEAM STEM en français, qui veut simplement dire sciences, technologies, ingénierie, ou en anglais engineering et mathématiques. Il est à côté du système d'enseignement traditionnel que l'on sait assez théorique, assez livresque. Le système STEAM ou STEM vise à former l'enfant, le jeune ou le citoyen plus globalement autour des sciences exactes, en partant de la considération que les sciences exactes, les quatre, mais qui peuvent s'étendre sur une palette qui peut être variable, et on intègre même les arts également, que ce sont ces sciences exactes qui soutiennent la production de l'intelligence. Et c'est-à-dire les mathématiques, l'ingénierie aujourd'hui,
c'est la technologie.
Nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'informatique, à l'ère du numérique. Rien ne se fait sans ces aspects-là, et ces aspects fondamentaux sont portés par ces secteurs, ces disciplines scientifiques qui sont réunies autour de STEM. Ça, c'est une première dimension. Mmh. La deuxième dimension de ce système d'éducation ou de cette politique d'éducation est d'accès. C'est la formation autour de la résolution pratique aux problèmes. Ça veut dire que on n'appelle pas l'enfant pour lui apprendre
des théories,
bourrer des théories, oui. HDO, ça fait O, etc. Non, oui. On emmène l'enfant pour l'emmener à résoudre des problèmes pratiques. Quand on lui parle de HDO, on lui présente ce que c'est que HDO et comment est-ce que cette combinaison chimique s'opère. Mmh. Et l'enfant est ainsi préparé pour résoudre des problèmes pratiques et non que de rester dans une culture livresque qui aujourd'hui est notamment, et vous parliez en introduction du niveau d'éducation, c'est aussi cet aspect-là assez livresque, assez théorique, qui constitue un goulot d'étranglement. Voilà plus ou moins cet enjeu, et nous avons pensé, de retour de cette session, nous avons pensé, percevant l'enjeu que cela représentait et au regard de la situation dans notre pays, mais surtout l'enjeu que cela représente pour le développement de notre pays, des efforts sont menés. Nous nous sommes rendu compte que, au même titre que la portée, la croissance du développement des autres pays, sans éducation, il y a rien à faire. Et pour cela, nous avons pensé partager donc cette expérience à la société congolaise, mais particulièrement aux dirigeants congolais, pour que ils puissent, par notre petite expérience, comprendre ce qui peut être de positif en termes d'apport aux fins de relever le pays. Parce que relever le pays, ça n'est pas que, et ce n'est d'ailleurs pas en termes de ce slogan politique, etc., parce qu'on est vraiment dans une culture trop politisée dans notre pays, oui. Alors que c'est autour de la science, autour de l'éducation, que des nations se construisent. Voilà. C'est pour ça que nous avons pensé écrire ce livre que nous avons mis à la disposition du public, et nous pensons que il pourra être utile.
On va accueillir les auditeurs. Jérémy Mwamba est à Lubumbashi. Jonas Kabinda nous appelle des Kananga. Robert Tamboué est à Kongolo, dans les Tanganyika. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à ce thème. Comment assurer une éducation des qualités aux enfants congolais? Appelez au 081 890 63 94. Radio Okapi aux couleurs de la 7e édition du Festival Amani du vendredi 14 au dimanche 16 février en direct du Collège Mwanga de Goma. Au menu, parole aux auditeurs en direct du site du festival le vendredi 14 à 12h05 heure de Goma. Urban Scene ce même vendredi à 15h20 et dimanche 16 à 12h10 heure de Kinshasa en direct du Festival Amani. Roundup samedi 15 de 13h à 15h heure de Kinshasa. Et enfin, Okapi Métissage samedi 15 exceptionnellement de 15h à 17h et dimanche 16 février de 13h à 15h heure de Kinshasa. Radio Okapi en direct et au rythme du Festival Amani de Goma, pour que la paix ne soit pas une belle idée. Comment assurer une éducation de qualité aux enfants congolais? Jérémy Mwamba, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jordi, bonjour également à notre invité. Ce sujet est vraiment très pertinent parce que vous savez, les enfants au jour d'aujourd'hui sont les futurs dirigeants, les futurs cadres de notre pays. Et alors, il revient au jour d'aujourd'hui d'assurer leur éducation de manière adéquate, de manière très rassurante, pour que ce dernier arrive à atteindre quand même une échelle considérable. Et alors, je voudrais ici en évoquer certains points. Avant d'en arriver, j'ai toujours dit à plusieurs fois, j'ai dit notre pays, en tout cas, il faut des réformes dans le secteur de l'enseignement. Pourquoi je dis ça, M. Jody? Vous n'avez qu'à voir. Je donne un exemple. Je pense que j'ai été également professeur dans une des écoles, mais j'ai constaté ceci. Vous savez, il y a certains livres au jour d'aujourd'hui. Comment voulez-vous un enfant qui est ici au Congo? Vous lui donnez, par exemple, vous nous parlez de Paris, vous lui parlez de Conakry. L'enfant, jusque-là, au lieu de rester voir son pays, tous les coins qui concernent son pays, l'enfant, lui, est en train de maîtriser Paris quand je partais pour Conakry. Tout ça, c'est vraiment une confusion totale, parce qu'il faut amener l'enfant à sortir du cadre habituel. Donc, ça dit, l'enfant doit vivre, il doit être au quotidien, de ce qu'il vit au quotidien. Vous devez parler aujourd'hui, par exemple, de l'environnement de notre pays. Vous ne pouvez pas nous parler de France, des États-Unis, pendant que notre pays, l'enfant ne maîtrise pas tout ce qui concerne notre pays. C'est inacceptable. Alors, il faut des réformes dans le cadre de l'enseignement. Et pour en assurer une qualité, une bonne qualité d'enseignement, il y a certains paramètres qu'il faut réunir. C'est notamment au jour d'aujourd'hui, bien sûr, la gratuité de l'enseignement, un geste à saluer à juste valeur. Mais il reste beaucoup de choses, et notamment les effectifs vraiment qui débordent. Un enseignement de qualité passe aussi par un effectif considérable dans une zone de classe. Donc, c'est-à-dire pas aller au-delà de ce qui est exigé. Ça, c'est un fait. Et puis, avoir une des infrastructures scolaires adéquates pour assurer une bonne éducation. Avoir un personnel enseignant totalement outillé, et donc sur le plan instructif et sur le plan éducatif. Et aussi avoir des matériels didactiques à la hauteur. Vous avez des classes au jour d'aujourd'hui, des enseignants qui donnent comme ça verbalement les enseignements. Comment voulez-vous qu'un enfant arrive à maîtriser des enseignements? L'enfant, vous lui parlez de quelque chose, mais l'enfant ne sait pas voir, non.
D'accord, merci. Merci Jérémy, on a retenu vos préoccupations ainsi que vos propositions. On va donner la parole à Jonas de Kabinda. Bonjour Jonas.
Bonjour Monsieur Jody Daniel Kachama.
Jonas Kabinda de Kananga. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une éducation de qualité d'après vous?
Pour la quintessence du sujet, un jour je vais partir par ce petit témoignage. Un jour j'étais en train d'échanger avec un chef coutumier. Il est du territoire de l'USA. C'est Monsieur Lombo Chakasa Isaac, le chef de groupement de Bakaloujambi dans les Tézouverines. Alors, il était préoccupé aussi par l'éducation des enfants. un chef coutumier, et il s'est fait chef, il s'est fait de ce quoi. Il a dit, bon, moi, ma façon aujourd'hui d'éduquer, je commence par l'église, je vais éduquer les parents, et parce que les enfants aussi viendront. Et pour lui, il dit, l'éducation est pour un homme ce que l'épine dorsale est pour les corps humains. Alors, pour revenir au sujet, monsieur Jody, je vais rejoindre quelque peu mon prédécesseur. Je suis moi-même enseignant. Il se passe un problème dans le système éducatif de notre pays. Pour ne pas aller trop loin, je pense seulement c'est qu'il y a des réformes en réforme. Par exemple, aujourd'hui, il y a la réforme dans l'histoire des sciences, ce qu'ils appellent DAS. Français, il y a ce qu'on appelle SESAM. Mais, c'est plutôt donc, il n'y a pas de suivi, brièvement. On forme les enseignants, et d'ailleurs, cette formation n'est même pas, je dirais, pertinente, parce que elle ne sait pas atteindre tous les enseignants à travers le pays. Il n'y a qu'on va cibler quelques écoles. Et les enseignants qui subissent cette formation, ils ne pratiquent plus du tout, parce que il y a manque de matériel didactique.
Alors, quelle est la question? Comme vous n'avez plus beaucoup de temps, allez passer rapidement à la question.
Il n'y a pas de question concrète. Il faudrait que l'État assure sa responsabilité. Quand il y a, par exemple, des réformes, il faut que ça atteigne tout le pays et qu'on puisse accompagner les écoles avec le matériel, qu'on puisse former les enseignants, qu'on puisse rémunérer les enseignants. Je pense que il y aura quand même, on pourra apporter quelque chose pour améliorer la qualité de l'enseignement. Sinon, ça sera toujours du bavardage comme ça et il n'y aura pas grand chose à faire.
Merci Jonas. Robert Tamboué, vous êtes à Kongolo dans les Tanganyika. Bonjour.
Bonjour Monsieur le JR. Bonjour Monsieur.
C'est Jody Kachama. Quelle est votre question, Robert?
J'ai des préoccupations à ce qui concerne pour avoir une bonne éducation de base dans notre République démocratique du Congo.
Oui. Veuillez vous éloigner de votre radio. Vous pouvez réduire le volume. Vous allez suivre à partir de votre téléphone.
Ah oui. Premièrement, le gouvernement d'abord doit assurer une bonne éducation. Ah oui. Allô?
Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement.
Je dis ceci. Le gouvernement doit d'abord investir les moyens nécessaires pour encadrer les corps enseignants. C'est à partir de ces enseignants qu'on aura une bonne éducation de base. C'est-à-dire le gouvernement doit prendre les responsabilités pour encadrer les enseignants, pour encadrer les éducateurs, afin que le Congo soit un pays meilleur pour que un jour nous aussi nous soyons un peu renommés dans tout le monde.
Merci bien. Ingénieur Glody de Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody Daniel Kachama, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la qualité de l'éducation?
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Je pense bien que le sujet d'aujourd'hui est vraiment capital, très nécessaire. Mais ce que nous remarquons, c'est quoi? Par exemple, ici à Kinshasa, si vous remarquez, les écoles sont entourées de bars. Alors, comment voulez-vous les enfants puissent être bien formés? Les enfants peuvent être à l'école, à côté, il y a le bar qui joue la musique, et les enfants... ils sont directement démoralisés. Alors je pose la question à notre invité. Quels sont les critères pour savoir là où on peut mettre une école? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Kinshasa est rempli de bars. Partout à gauche, vous allez voir des bars. Et il y a des écoles, il y a des églises. On n'arrive pas à comprendre. Comment voulez-vous que nos enfants puissent être bien formés? Tandis qu'au préalable, il n'y a pas de solution. Alors quels sont les critères pour éduquer nos enfants? Parce qu'au moment où nous sommes, c'est plus le moment des théories. Nous devons mettre les choses en pratique et en marche afin de changer le système éducatif de notre pays. Et ce que nous constatons encore, c'est quoi? Par exemple, il y a des écoles ici à Kinshasa. Il y a des matériels didactiques. Mais si vous allez, par exemple, vers Bandunduville, vers l'intérieur de Bakata, tout ça, vers les territoires de Bakata, il n'y a pas de matériel. Les enseignants enseignent comme ça en vain. Et les enfants n'ont jamais vu même une balance, mais pourtant ils prennent les cours de mesure de grandeur, de mesure de capacité, de mesure de poids, des choses comme ça. Comment voulez-vous que nos enfants puissent avoir une bonne base depuis l'école primaire? C'est pratiquement impossible. Nous demandons à l'État. L'État congolais envoie les frais de fonctionnement par école au moins chaque mois.
Merci, Glody.
Aussi de commencer à envoyer les matériels didactiques par école chaque mois, bien par trimestre. Je crois que ce problème, ça peut vraiment diminuer un peu la qualité ou encore ça peut augmenter la façon de nos enseignements congolais. Je crois aussi que ça peut aider les
Merci
pays,
beaucoup.
Encore, ça peut aider les générations.
D'accord. Merci. Merci, Benjamin de Kananga. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody Daniel. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre question par rapport à la qualité de l'éducation?
Oui, Monsieur Jody, je m'en vais tout d'abord pour vous dire que les droits à l'éducation a été reconnu par l'Assemblée...
par la Constitution.
Oui, par la Constitution, bien sûr, mais c'était en date du 10 décembre 1948, dans l'article intitulé « Toute personne a droit à l'éducation ». Voilà pourquoi dans ce même article, il a été dit « L'enfant a droit à une éducation gratuite au niveau primaire ». Heureusement, cette disposition dans notre pays a souffert d'application et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça, monsieur Jody. Mais je vais aller plus loin pour vous dire que pour qu'on puisse vraiment assurer l'efficacité de l'éducation, il fallait d'abord que l'État puisse mettre à profit tous les moyens disponibles pour permettre aux enfants d'acquérir la connaissance, aussi permettre aux enseignants. Parce que moi qui vous parle, je suis en train d'enseigner dans l'une des institutions de la place. Vous allez remarquer que, monsieur Jody, il y a certains enseignants qui ne sont pas à la hauteur de la tâche qui leur, de certaines tâches qui leur sont attribuées. Il y a certains enseignants-là qui n'ont pas maîtrisé même les programmes nationaux. Vous allez vous imaginer un enseignant qui va dans les cours, par exemple, l'éducation civique et morale, en 8e année. Il va intituler la leçon « Les SIDA ». Mais c'est joli, imaginez-vous. Qu'est-ce que les enfants peuvent saisir dans ce mot-là, « SIDA », en 8e ? Et un enseignant incapable d'enseigner, de transmettre la connaissance aux enfants, il va dire aux enfants, par exemple, les animaux qui mangent les herbes, c'est qui ? Comprenez un peu des histoires pareilles, M. Jody. Les enfants-là seront très bien formés pour qu'ils puissent être utiles dans la société de demain. Point d'interrogation. Alors moi, je voulais aussi, comme proposition, demander au gouvernement congolais pour qu'on puisse savoir qui admettre comme enseignant et aussi quels sont les moyens qu'il faut mettre à profit pour que les enfants soient d'abord bien outillés, les enseignants également pour que l'éducation puisse être assurée de bonne qualité. Comme ça, on aura des élites hein, dans les prochains jours, au lieu de tourner toujours à des problèmes qui nous affectent à ces jours. Voilà au moins ma petite contribution par rapport à...
Merci Benjamin de Kananga. Alors Jean Bedel, vous avez suivi toutes les préoccupations des auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Au titre de réaction, je dirais plutôt que ils ont fait des contributions. Et cela traduit le souci partagé par l'ensemble du corps social autour de cette problématique qui est fondamentale, dont l'enjeu n'est plus à décrire. Je dirais trois choses par rapport à ce qui a été dit. Il y a un auditeur qui a parlé des réformes à faire. Je dirais les réformes, oui, il y a une réforme qui est en cours, qui a été initiée en février 2014 par la loi sur l'éducation nationale, la loi 14/004 sur l'enseignement national, laquelle loi a été suivie d'une planification stratégique qu'on a appelée la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, qui a été validée par l'ensemble des parties prenantes locaux et étrangers en 2016 et qui court, c'est un plan décennal qui court jusqu'en 2025. Et il y a à côté de ça un plan opérationnel qu'on nomme PEC-PESU, le plan d'éducation pour le relèvement de la qualité, c'est le PEC-PESU. Alors, tout cela a été pensé. Le problème se pose actuellement au niveau de la mise en œuvre de cette réforme-là, qui est une réforme très courageuse, très 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 innovante, parce que en effet.
Et quelles sont les innovations?
Les innovations de cette réforme sont notamment le fait de renforcer une attention sur la recherche scientifique. C'est notamment le fait d'apporter une attention particulière à l'éducation professionnelle et à l'éducation technique. Les innovations sont notamment l'intégration de cette idée des sciences, des mathématiques, de l'ingénierie dans le programme d'enseignement.
Là, c'est au niveau primaire ou c'est au niveau
secondaire, primaire. Il y a une réforme globale. Oui. Il y a d'abord une loi sur l'éducation nationale, puis un plan stratégique qui est décennal, et puis il y a un projet financé à hauteur, si je ne m'abuse, de 300 millions de dollars par la Banque mondiale. Mais le problème, comme je disais, il est au niveau de la mise en œuvre. Je veux dire deux choses par rapport à ça. deux choses. Lorsque cette réforme a dit avoir concentré ou attiré l'attention sur la nécessité de valoriser l'éducation professionnelle ainsi que l'éducation technique.
C'est très bien. Aujourd'hui, cette réforme a été appliquée.
C'est très bien. La réforme est appliquée. Oui,
l'enseignement technique.
L'enseignement, bien entendu. Mais aujourd'hui, si vous analysez la mise en œuvre de cette réforme qui a été projetée au niveau du PEC-PSU, par exemple, nous prenons simplement les échantillons et un auditeur l'a bien relevé. Le PEC-PSU cible 12 provinces sur 26. Mais dans les 12 provinces, vous prenez une province comme Kinshasa, ça ne cible que deux établissements. Vous prenez une province comme le Haut-Ouélé, ça cible un établissement comme établissement de référence, pilote, etc. Vous analysez l'impact de cette cible-là sur l'ensemble. Cet auditeur-là a eu bien raison de s'émouvoir. Quand vous mesurez l'impact de cet échantillon-là, vous vous dites l'impact tout de suite qu'il sera très faible. Première chose. La deuxième chose, c'est au niveau du financement, justement, parce que, entre autres solutions, nous en arriverons peut-être dans les solutions que nous avons proposées dans notre ouvrage. Jusqu'aujourd'hui, il y a toujours cette culture générale congolaise orientée vers les sciences littéraires, théoriques, etc. Nous avons indiqué, par exemple, quand vous faites les statistiques, vous analysez les statistiques des orientations scolaires en maths physique, par exemple, en littéraire, par exemple, etc., par rapport aux sciences, aux disciplines pratiques comme la pêche, comme par exemple la maçonnerie, vous voyez que il y a une telle disproportion que il y a quand même un décalage entre ce qui a été pensé dans la réforme et ce qui est mis en œuvre. Et quand vous analysez le plan de financement qui est prévu dans la stratégie sectorielle décennale, vous vous rendez compte que non seulement que la recherche scientifique est à peine identifiée comme secteur attirant les financements, faisant l'objet des financements substantiels, mais également les secteurs techniques et professionnels ne bénéficient pas d'une affectation financière substantielle. Et même lorsque ces affectations financières ont été prévues, vous voyez qu'à côté, on n'identifie pas le source de financement. On dit non identifié. Alors, vous vous posez la question.
Donc, si la réforme tarde, c'est un problème de financement.
Il y a comme un décalage entre ce qui est pensé, l'idée de la réforme, elle est parfaite. Elle est parfaite. Mais la mise en œuvre, elle souffre d'une rigueur aux fins du renversement de cette tendance négative de la qualité de l'éducation. On se concentre, bien entendu, c'est très important. Aujourd'hui, on l'a dit en introduction, que le problème du nombre d'accès à l'école ne se pose plus. Alors, c'est comme ça. Deuxième chose, dans l'ordre d'importance soulevé par les auditeurs, après la réforme, qui est, je l'ai dit, qui a été mise en œuvre, c'est le financement. Je l'ai parlé, je venais de le dire tout à l'heure, mais comment financer, où trouver ce financement-là? Quand vous analysez la structure du budget, évidemment, cette fois-ci, le budget 2020 a relativement été réajusté, mais jusque à cette année, le budget affecté à l'éducation n'était pas à la hauteur des enjeux. Mais on va le dire, est-ce que c'est parce que le gouvernement ne veut pas le faire ou parce qu'il n'y a pas de ressources? Je vais pencher pour la deuxième assertion. Le gouvernement ne peut financer qu'à la hauteur des ressources disponibles ou mobilisables. C'est comme ça que nous pensons qu'il faut imaginer, il faut mettre en place des modalités innovantes de financement parce que le cœur de tout ça, c'est les financements. Quand vous voyez, même les Américains, quand ils mettent en œuvre le STEM, et même d'autres pays d'ailleurs, la recherche scientifique, l'éducation nationale fait l'objet de financements conséquents que nous n'avons pas.
Mais le STEM commence déjà au niveau secondaire.
Ça commence déjà depuis le niveau maternel. Et d'ailleurs, une parenthèse que j'ouvre et que je ferme, Parmi les, j'ai évoqué trois dimensions de la mise en œuvre du système aux États-Unis. Une autre dimension est celle de la participation, de la mise en œuvre des synergies participatives de l'ensemble des acteurs qui participent au système d'éducation, les parents, les opérateurs politiques, les gouvernants, etc., pour que à chaque niveau, depuis le niveau de base, depuis l'entité la plus décentralisée, l'on suive la mise en œuvre d'une réforme. Et cela fait partie d'une des propositions. Et pour revenir à la problématique du financement, nous avons par exemple fait des propositions, nous référant sur le modèle américain par exemple, qui consiste à des rabattements d'impôts. Aujourd'hui, le gouvernement doit être en mesure de mobiliser des ressources qui sont directement affectées à l'éducation. Si le gouvernement pouvait faire des compensations avec des opérateurs économiques, par exemple, pour dire que
on vous accorde des exonérations.
On vous accorde des exonérations, mais vous appuyez en échange, vous appuyez l'éducation, vous construisez des structures, etc. Vous financez l'acquisition des infrastructures ou des matériaux didactiques, etc. Aujourd'hui, nous avons une culture associative assez développée dans notre pays. Si le gouvernement, par exemple, pouvait encourager les ASBL, les ONG à travailler dans le secteur de l'éducation pour compenser aussi bien en termes de renforcement des capacités des enseignants qu'en termes d'acquisition des ressources diverses à ces ONG-là en échange des facilités fiscales, je pense que une solution serait trouvée. Et aujourd'hui, en entrant, j'ai trouvé ces reportages qui, effectivement, se satisfait de l'accès, du large accès des enfants à l'école, mais avec ce mais-là qui, finalement, pour une mesure si bien pensée, une mesure citoyenne, risque d'être finalement tournée en dérision par la population. Ça, c'est une mesure. D'autres mesures peuvent être prises par le gouvernement.
Oui.
Ce serait, par exemple, deuxième dimension. Vous savez, le législateur congolais a eu l'intelligence d'instituer le régionalisme comme forme de l'État, de notre État. Ce régionalisme n'a pas qu'un enjeu politique. Il a un enjeu en termes d'éducation substantielle, parce que l'éducation fait notamment partie des domaines dans leur mise en œuvre de compétences exclusives des provinces.
D'accord. Jean Bedel, je reviens à vous, le temps d'accueillir trois auditeurs. Maître Gaston nous appelle de Kinshasa, Tridon Yavé, Tadi Lolo et Martial Didier Passois à Louisa. Maître Gaston, bonjour, et quelle est votre question par rapport à la qualité de l'éducation?
Bonjour, premièrement, je voulais préciser une chose. Apparemment, l'éducation, la manière dont j'ai compris, l'allure où vont les arguments des uns ou des autres, l'éducation n'est pas l'instruction. Là, il faut vraiment faire la part des choses. L'instruction se donne à l'école, instruit les gens, mais l'éducation, c'est partout. C'est un problème individuel. L'éducation, c'est partout. C'est surtout à l'environnement, la société qu'évolue un enfant qui est censé être éduqué et puis devenir un homme utile. Là, il faut faire la part des choses quant à ça. Et puis, quant à l'instruction, l'instruction en soi, c'est pas la gratuité, parce que nous avons étudié dans des périodes où il y avait pas cet aspect, mais on est sorti instruit. On est sorti, on a compris les méthodes et voilà.
Alors, rapidement, quelle est la question? Vous n'avez pas beaucoup de temps. Quelle est la question rapidement?
Bon, ma première question, est-ce que, d'après Félix, est-ce que pense-t-il qu'avec cette méthode de l'instruction, soit de l'enseignement gratuit qui prétend soutenir ou soit défendre à tout moment, pouvons-nous demain se trouver devant une génération qui sera bénéficiaire d'une bonne éducation et surtout dans la bonne gouvernance et dans beaucoup de choses. Deuxièmement, pourquoi l'éducation en soi ne devrait pas premièrement tenir compte de la famille et qui est censée élever l'enfant dans un premier degré? Je vais parler de l'éducation des parents, quoi.
Oui. L'éducation familiale. D'accord.
Non, l'éducation des parents, donc former les personnes à devenir des bons parents, quoi. Parce que nous nous formons, normalement notre pédagogie forme les enfants à devenir des hommes ici, mais à devenir des gens dans la vie,
mais on ne formait pas les gens à devenir parents.
Voilà, donc si cette méthode-là pouvait être prise en compte, je pense peut-être pas que c'est ceci là les problèmes.
Merci Maître Gaston. Trident Yav de Dilolo, bonjour.
Ah, bonjour Jody, bonjour à l'invité qui est avec vous dans les studios.
Bonjour Trident, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oh oui, cette problématique, je dis, de la qualité de l'enseignement demeure un grand défi à relever ici en République démocratique du Congo et à Dilolo pratiquement où je me retrouve. Moi, je pense qu'il y a un problème dans les recrutements d'abord. Je relève un point sur les recrutements des enseignants. Donc, dans certains milieux, c'est-à-dire, auparavant, on pouvait recruter l'enseignant sur base d'un test. On les recrute, on les teste, on sait que cet enseignant est capable de donner cours parce que lui-même, il connaît la matière. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je vais vous donner un exemple. Ici, à Dilolo, on a recruté récemment des enseignants parce que les CQP voulaient qu'on augmente les nouvelles écoles, il fallait qu'on prenne des dossiers. Mais quels sont les dossiers qu'ils ont pris? Même pas, il n'y a pas d'infrastructure. On recrute la personne, on peut même le suivre à la maison pour lui demander s'il a une pièce. Et on doit l'engager. Mais sans savoir cette personne, est-ce qu'il a la qualité, est-ce qu'il est qui, il a fait la médecine, on va l'engager pour être enseignant à l'école primaire, est-ce que ça peut répondre?
Oui.
Et aussi les problèmes des infrastructures, ici à Dilolo, par exemple, où je vous parle, les 1000 écoles que l'État, à l'époque de Matata Mponyo, rappelez-vous, il y avait un projet de construire 1000 écoles, mais à Dilolo, une seule école a été construite, et cette école pourvue de bancs, il n'y a pas de bancs, on a terminé à construire, on dit non, voilà l'école sans bancs, et les élèves s'assoient, il y a même le sol, ils s'appuient sur les genoux pour écrire, voilà les conditions pour lesquelles les enfants ne doivent pas bien étudier. Et enfin, avant que je ne pose la question, le problème maintenant des parents et du gouvernement. Le gouvernement aujourd'hui favorise la corruption au niveau des enseignants, et les anciens qui étaient habitués au FAP. Aujourd'hui, on parle de la gratuité. Cet enseignant, je vous dis qu'à Dilolo, quand on circule dans des écoles, les enseignants n'ont pas la conscience de donner cours comme auparavant, quand ils avaient encore les FAP et plus les salaires. Et ils font les sittings, vous voyez, ça pose aussi problème. Et les parents qui, un enfant qui part à l'école, à la fin de l'année, il n'est pas intelligent. Non, vous voyez, c'est une fille avec des seins au niveau de la poitrine, on risque de l'engrosser, comprenez-moi, qu'il passe, il favorise cela. Alors la question tout droit à notre invité jeudi, parce que le temps aussi nous est imparti, je voudrais savoir quelle est la méthode normalement aujourd'hui là dans l'enseignement qu'il faut appliquer pour que l'enseignement soit de qualité. Et que compte faire le gouvernement pour les recrutements, comme je venais de dire, ou aussi des recyclages à des anciens qui existent déjà. On ne peut pas les recycler. Les inspecteurs ne passent pas pour recycler.
D'accord.
Ils passent plutôt pour demander les dossiers et autres choses.
Merci Trident.
Pour l'argent. Voilà au moins mes préoccupations. Merci Jody.
Merci Trident, Dédi Lolo. Marcel et Didier Passois, vous êtes à Louisa. Bonjour.
Bonjour Monsieur Dédi. Bonjour également à votre invité Monsieur Jean-Bébel Yoka. Pour ne pas Monsieur Dédi tomber dans les redites, je voudrais dire que au-delà de la gratuité, il y a les préalables nécessaires que le gouvernement est censé mettre en place pour une éducation de qualité. Alors, c'est là que je voudrais, comme le prédécesseur l'a dit, il aurait fallu qu'on puisse adapter les infrastructures, M. Denis, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous entrez dans une salle, vous trouvez que c'est une salle pléthorique de 200 élèves, et cela échappe au bon contrôle, n'est-ce pas, de l'assimilation de la matière par l'enseignant. Ça, c'est la première dimension, M. Denis. Ainsi, il aurait aussi fallu un renforcement des capacités par rapport aux approches adaptées de l'apprenant. La dimension de réajustement des conditions socio-économiques, comme promis par le chef de l'État, doivent être de l'enseignant, bien entendu, doivent être d'applicabilité. Mais aussi, entre les parents et les enseignants, il faut qu'il y ait la prise de conscience pour savoir qu'on éduque qui pour tel avenir de la RDC. Pour ainsi terminer ou avant de terminer, moi je pense que ce qui nous manque dans les pays, dans notre pays, monsieur Denis, c'est qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement et de suivi par rapport aux différentes réformes que nous nous assignons. Nous, il y a beaucoup de théories, mais la pratique en place n'est pas assurée. Si alors on peut mettre cela en place, je pense que c'est beaucoup plus bien. Pour finir,
nous
devons nous inscrire également dans la pédagogie pratique, monsieur Dédic, qui est plutôt théorique, et adapter par rapport à la réalité du milieu immédiat de l'apprenant. Donc, nous n'adaptons pas l'enseignement par rapport au milieu immédiat. Pour finir la question, est-ce que l'invité qui est dans votre studio, monsieur Diodi, peut nous dire, depuis qu'on a lancé la gratuité, en termes de pourcentage, il peut nous parler du niveau de la qualité de l'enseignement ou du niveau de l'enseignement par rapport à la qualité? J'ai dit, je vous remercie et bon début de la semaine.
Merci Marcel Didier. Monsieur Jean Bédel Yoka, vous avez la parole.
Merci monsieur Didier, monsieur Diodi, et merci aux invités, aux intervenants.
Aux auditeurs.
Je commence par les deux dernières questions avant de revenir sur la question du premier intervenant et poursuivre mon développement. Je veux dire ici que je ne suis pas un officiel du gouvernement. Mm-hmm. Je ne suis qu'un chercheur, un citoyen intéressé par notamment cette question à cause du fait notamment que cette question de l'éducation, non seulement que c'est une question citoyenne, mais également c'est une question qui participe au développement, et c'est d'ailleurs le socle du développement d'un pays. Et c'est en cela que nous avons été intéressés et avons publié l'ouvrage
intitulé Plaidoyer pour la mise en œuvre du système éducation à l'ère.
Voilà. Alors, donc, je ne saurais pas, à l'intention du dernier auditeur, lui donner des réponses statistiques sur le niveau de mise en œuvre, ni de la qualité, ni du niveau d'accès des enfants à l'école. Seulement, je dirais que, au regard des statistiques lors de mes enquêtes préliminaires à la production de mon livre, j'ai observé que la République démocratique du Congo était très en phase, était très avancée en termes de politique d'accès des enfants à l'école. Les politiques en rapport avec l'accès de la jeune fille à l'école. Donc, les politiques d'accès et donc, ou les politiques quantitatif, la République démocratique du Congo est très avancée et je pense qu'il a bien atteint les assignations de la communauté internationale. La mesure présidentielle de la gratuité venant d'ailleurs renforcer cette dimension quantitative. Mmh. Mais quant à la dimension qualitative, c'est bien entendu l'objet de notre échange, et c'est d'ailleurs ce pourquoi j'ai écrit cet ouvrage, constatant bien entendu que une qualité sans une quantité, sans qualité, ça ne résout pas le problème. Évidemment, on résout un préalable, mais qu'il faut soutenir en renforçant la qualité, parce que sinon, l'enfant que l'on envoie à l'école, à qui on décerne ce diplôme-là, sans qu'il en ait les aptitudes, on lui rend un mauvais service.
Donc, il faut associer et la quantité et la qualité.
Mais surtout la qualité.
Oui.
Et notre apport en appui à la mesure présidentielle que nous soutenons, c'est justement de donner, de participer avec ces idées-là pour aider la mesure présidentielle à se relever, à être bien qualitative.
Qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour adapter le système STEAM à notre système éducatif? Qu'est-ce qu'il faut pour adapter cela?
Deux choses.
Il y a déjà eu plusieurs réformes.
Mais voilà.
Par rapport à ce que vous proposez dans cet ouvrage, comment les adapter à notre système éducatif?
Alors, je disais deux choses.
Oui.
La première va incidemment répondre à la préoccupation du premier intervenant qui a fait une différence sémantique entre instruction et éducation. Mais bien entendu, l'éducation est gérée et perçue dans une approche systémique. On intègre dans l'instruction des enfants, la dimension éducative, et c'est cette dimension-là qui fait de l'enfant sorti de l'école ou de la structure d'enseignement une personne globalement formée pour le développement du pays. Et c'est pour cela, réponse à votre question, comment faire? Dans la mise en œuvre, je parlais de du régionalisme ou de la très forte décentralisation, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis les écosystèmes STEM. Aujourd'hui, c'est plus ou moins mis en œuvre dans notre pays, dans ce qu'ils appellent les partenaires éducatifs, plus ou moins. Mais il faut que ça soit renforcé. Ça veut dire que au niveau, à tous les niveaux, même au niveau de l'entité décentralisée de base, ça veut dire le secteur, il y a des comités des parents qui se réunissent non seulement pour savoir comment l'enfant va payer, quel est le taux de Minerval, par exemple, des frais scolaires, mais ils réfléchissent sur l'ensemble des programmes qui participent au renforcement de l'éducation de l'enfant, justement. Et cela fait, évidemment, le niveau de développement jusqu'à la base des États-Unis n'est pas celui de la RDC, mais nous disons quand même, et je le disais tantôt, avant l'intervention des auditeurs, que cette forte décentralisation allait aider ou pouvait aider à résoudre ce problème. Comment ? Lorsque nous mettons en œuvre, si le gouvernement veille à matérialiser effectivement la décentralisation, de sorte que les provinces et derrière elles les autres entités territoriales décentralisées s'approprient de cette problématique de l'enseignement. Il va se faire que les provinces, chaque province va se concentrer sur la problématique de l'enseignement, non seulement par rapport à son financement, évidemment il y aura des compensations en termes de péréquation parce que les provinces n'ont pas les mêmes ressources, mais également et surtout en termes de spécificité, on va dire économique de chaque province. Je dirais par exemple les provinces minières. Lorsque nous allons avec un enseignement générique, etc., en quoi est-ce que les enfants qui sont formés dans ces provinces-là vont participer au développement économique de ces provinces?
Non, il faut que cet enseignement... C'est tellement intéressant qu'on n'a pas, on a plus beaucoup de temps. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui et vous allez certainement revenir un autre jour pour qu'on puisse approfondir
ces échanges. Ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir parce qu'il y a trois mesures que nous avons proposées qui consistent en matière de financement, en matière d'inversion culturelle, de perception culturelle, mais également en matière de mise en œuvre du régionalisme ou de la fédéralisme.
Fort. Jean Bedel Iyoka, doctorant en sciences politiques et auteur de l'ouvrage Plaidoyer pour la mise en œuvre des STEM en éducation en RDC. Merci et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Diodé.